Acte 3, scène 1. Damis, Dorine.
Que la foudre sur l'heure achève mes destins, qu'on me traite partout du plus grand des faquins, s'il est aucun respect ni pouvoir qui m'arrête, et si je ne fais pas quelques coups de ma tête.
De grâce, modérez un tel emportement. Votre père n'a fait qu'en parler simplement. On n'exécute pas tout ce qui se propose, et le chemin est long du projet à la chose.
Il faut que de ce fat j'arrête les complots, et qu'à l'oreille un peu je lui dise deux mots.
Ah, tout doux, envers lui comme envers votre père, laissez agir les soins de votre belle-mère. Sur l'esprit de Tartuffe, elle a quelque crédit. Il se rend complaisant à tout ce qu'elle dit, et pourrait bien avoir douceur de cœur pour elle. Plût à Dieu qu'il fût vrai, la chose serait belle. Enfin, votre intérêt l'oblige à le mander. Sur l'hymen qui vous trouble, elle veut le sonder, savoir ses sentiments et lui faire connaître quel fâcheux démêlé il pourra faire naître s'il faut qu'à ce dessein il prête quelque espoir. Son valet dit qu'il prie, et je n'ai pu le voir. Mais ce valet m'a dit qu'il s'en allait descendre. Sortez donc, je vous prie, et me laissez l'attendre.
Je puis être présent à tout cet entretien.
Point, il faut qu'il soit seul.
Je ne lui dirai rien.
Vous vous moquez? On sait vos transports ordinaires. Et c'est le vrai moyen de gâter les affaires. Sortez.
Non, je veux voir, sans me mettre en courroux.
Que vous êtes fâcheux! Il vient, retirez-vous.
Damis va se cacher dans un cabinet qui est au fond du théâtre. Scène 2. Tartuffe, Laurent, Dorine. Tartuffe parle en bas à son valet, qui est dans la maison, dès qu'il aperçoit Dorine.
Laurent, serrez ma mère avec ma discipline, et priez que toujours le ciel vous illumine. Si l'on vient pour me voir, je vais aux prisonniers et des aumônes que j'ai, partager les deniers.
Dorine à part.
Que d'affectation et de forfanterie.
Que voulez-vous?
Vous dire...
Tartuffe tirant un mouchoir de sa poche.
Oh, mon Dieu, je vous prie, avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir.
Comment?
Et couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées.
Vous êtes donc bien tendre à la tentation, et la chair sur vos sens fait grande impression. Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte, mais à convoiter, moi, je ne suis point si prompte. Et je vous verrai nu du haut jusqu'en bas, que toute votre peau ne me tenterait pas.
Mettez dans vos discours un peu de modestie, ou je vais sur le champ vous quitter la partie.
Non, non, c'est moi qui vais vous laisser en repos. Et je n'ai seulement qu'à vous dire deux mots. Madame va venir dans cette salle basse, et d'un mot d'entretien vous demande la grâce.
Oh, hélas, très volontiers.
Dorine à part.
Comme il sera douci. Ma foi, je suis toujours pour ce que j'en ai dit.
Viendra-t-elle bientôt?
Je l'entends, ce me semble. Oui, c'est elle en personne, et je vous laisse ensemble.
Scène 3. Elmire, Tartuffe.
Que le ciel à jamais, par sa toute bonté, et de l'âme et du corps vous donne la santé, et bénisse vos jours autant que le désir, le plus humble de ceux que son amour inspire.
Je suis fort obligée à ce souhait pieux. Mais prenons une chaise afin d'être un peu mieux.
Tartuffe assis.
Comment, de votre mal, vous sentez-vous remise?
Elmire assise.
Fort bien, et cette fièvre a bientôt quitté prise.
Mes prières n'ont pas le mérite qu'il faut pour avoir attiré cette grâce d'en haut. Mais je l'ai faite au ciel, nulle dévote instance qui n'ait eu pour objet votre convalescence.
Votre zèle, pour moi, s'est trop inquiété.
Mais on ne peut trop chérir votre chère santé, et pour la rétablir, j'aurais donné la mienne.
C'est poussé bien avant la charité chrétienne, et je vous dois beaucoup pour toutes ces bontés.
Je fais bien moins pour vous que vous ne méritez.
J'ai voulu vous parler en secret d'une affaire, et suis bien aise ici qu'aucun ne nous éclaire.
J'en suis ravie de même, et sans doute il m'est doux, madame, de me voir seul à seul avec vous. C'est une occasion qu'au ciel j'ai demandé, sans que jusqu'à cette heure il me l'ait accordé.
Pour moi, ce que je veux, c'est un mot d'entretien où tout votre cœur s'ouvre et ne me cache rien.
Damis, sans se montrer, entr'ouvre la porte du cabinet dans lequel il s'était retiré pour entendre la conversation.
et je le veux aussi, pour grâce singulière, que montrer à vos yeux mon âme tout entière, et vous faire serment que les bruits que j'ai faits des visites qui s'y reçoivent vos attraits ne sont pas envers vous l'effet d'aucune haine, mais plutôt d'un transport de zèle qui m'entraîne et d'un pur mouvement.
Je le prends bien aussi, et crois que mon salut vous donne ce souci.
Tartuffe, prenant la main d'Elmire et lui serrant les doigts.
Oui, madame, sans doute, et ma ferveur est telle...
Ouf, vous me serrez trop.
C'est par excès de zèle. De vous faire autre mal, je n'ai jamais dessein, et j'aurais bien plutôt...
Il met la main sur les genoux d'Elmire.
Que fait là votre main?
Je tâte votre habit. Oh, l'étoffe en est moelleuse.
Ah, de grâce, laissez! Je suis fort chatouilleuse.
Elmire recule de son fauteuil et Tartuffe rapproche d'elle. Tartuffe maniant le fichu d'Elmire.
Mon Dieu! Que de ce point l'ouvrage est merveilleux! On travaille aujourd'hui d'un air miraculeux. Jamais en toute chose on a vu si bien faire.
Il est vrai, mais parlons un peu de notre affaire. On tient que mon mari veut dégager sa foi et vous donner sa fille. Est-il vrai, dites-moi?
Il m'en a dit deux mots. Mais, madame, à vrai dire, ce n'est pas le bonheur, après quoi je soupire. Et je vois autre part les merveilleux attraits de la félicité qui fait tous mes souhaits.
C'est que vous n'aimez rien des choses de la terre.
Mon sein n'enferme pas un cœur qui soit de pierre.
Pour moi, je crois qu'au ciel tendent tous vos soupirs et que rien ici-bas n'arrête vos désirs.
L'amour qui nous attache aux beautés éternelles n'étouffe pas en nous l'amour des temporels. Nos sens facilement peuvent être charmés des ouvrages parfaits que le ciel a formés. Ces attraits réfléchis brillent dans vos pareils, mais il étale en vous ses plus rares merveilles. Il a sur votre face épanché des beautés dont les yeux sont surpris et les cœurs transportés. Et je n'ai pu vous voir, parfaite créature, sans admirer en vous l'auteur de la nature, et d'une ardente amour sentir mon cœur atteint au plus beau des portraits où lui-même il s'est peint. D'abord, j'appréhendais que cette ardeur secrète ne fut du noir esprit une surprise adroite, et même à fuir vos yeux, mon cœur se résolut, vous croyant un obstacle à faire mon salut. Mais enfin je connus, ô beauté tout aimable, que cette passion peut n'être point coupable, que je puis l'ajuster avec la pudeur, et c'est ce qui m'y fait abandonner mon cœur. Ce m'est, je le confesse, une audace bien grande que d'oser de ce cœur vous adresser l'offrande. Mais j'attends en mes voeux tout de votre bonté et rien des vains efforts de mon infirmité. En vous est mon espoir, mon bien, ma quiétude. De vous dépend ma peine ou ma béatitude. Et je vais être enfin... par votre seul arrêt, heureux, si vous voulez, malheureux, s'il vous plaît.
La déclaration est tout à fait galante, mais elle est, à vrai dire, un peu bien surprenante. Vous deviez, ce me semble, armer mieux votre sein et raisonner un peu sur un pareil dessein. Un dévot comme vous, et que partout on nomme...
Ah, pour être dévot, je n'en suis pas moins homme. Et lorsqu'on vient à voir vos célestes appas, un cœur se laisse prendre et ne raisonne pas. Je sais qu'un tel discours de moi paraît étrange, mais, madame, après tout, je ne suis pas un ange. Et si vous condamnez l'aveu que je vous fais, vous devez vous en prendre à vos charmants attraits. Dès que j'en vis briller la splendeur plus qu'humaine, de mon intérieur vous fûtes souveraine. De vos regards divins, l'ineffable douceur força la résistance où s'obstinait mon cœur. Elle surmonta tout, jeûne, prière, larmes, et tourna tous mes vœux du côté de vos charmes. Mes yeux et mes soupirs vous l'ont dit mille fois, et pour mieux m'expliquer, j'emploie ici la voix que si vous contemplez d'une âme un peu bénigne les tribulations de votre esclave indigne, s'il faut que vos bontés veuillent me consoler et jusqu'à mon néant daignent se ravaler, j'aurai toujours pour vous, ô suave merveille, une dévotion à nulle autre pareille. Votre honneur avec moi ne court point de hasard et n'a nulle disgrâce à craindre de ma part. Tous ces galants de cour dont les femmes sont folles sont bruyants dans leurs faits, vains dans leurs paroles. De leurs progrès sans cesse on les voit se targuer. Ils n'ont point de faveur qu'ils n'aillent divulguer, et leur langue indiscrète en qui l'on se confie déshonore l'autel où leur cœur sacrifie. Mais les gens comme nous brûlent d'un feu discret, avec qui, pour toujours, on est sûr du secret. Le soin que nous prenons de notre renommée répond de toutes choses à la personne aimée, et c'est en nous qu'on trouve, acceptant notre cœur, de l'amour sans scandale et du plaisir sans peur.
Je vous écoute dire, et votre rhétorique en termes assez forts à mon âme s'explique. N'appréhendez-vous point que je ne sois d'humeur à dire à mon mari cette galante ardeur, et que le prompt avis d'un amour de la sorte ne pût bien altérer l'amitié qu'il vous porte.
Je sais que vous êtes trop de bénignité, et que vous ferez grâce à ma témérité, que vous m'excuserez sur l'humaine faiblesse des violents transports d'un amour qui vous blesse, et considérerez, en regardant votre air, que l'on n'est pas aveugle, et qu'un homme est de chair.
D'autres prendraient cela d'autre façon, peut-être, mais ma discrétion veut se faire paraître. Je ne redirai point l'affaire à mon époux, mais je veux en revanche une chose de vous. C'est de presser tout franc et sans nulle chicane l'union de Valère avec Marianne, de renoncer vous-même à l'injuste pouvoir qui veut du bien de notre enrichir votre espoir et...
Scène 4. Elmire, Damis, Tartuffe. Damis sortant du cabinet où il s'est retiré.
Non, madame, non. Ceci doit se répandre. J'étais en cet endroit d'où j'ai pu tout entendre, et la bonté du ciel m'y semble avoir conduit pour confondre l'orgueil d'un traître qui me nuit, pour m'ouvrir une voie à prendre la vengeance de son hypocrisie et de son insolence, à détromper mon père et lui mettre en plein jour l'âme d'un scélérat qui vous parle d'amour.
Non, Damis, il suffit qu'il se rende plus sage et tâche à mériter la grâce où je m'engage. Puisque je l'ai promis, ne m'en dédite pas. Ce n'est point mon humeur de faire des éclats. Une femme se rit de sottises pareilles, et jamais dans Marie n'en trouble les oreilles.
Vous avez vos raisons pour en user ainsi. Et pour faire autrement, j'ai les miennes aussi. Le vouloir épargner est une raillerie, et l'insolent orgueil de sa cagoterie n'a triomphé que trop de mon juste courroux, et que trop excité de désordre chez nous. Le fourbe trop longtemps a gouverné mon père, et desservi mes feux avec ceux de Valère. Il faut que du perfide il soit désabusé, et le ciel pour cela m'offre un moyen aisé. De cette occasion je lui suis redevable, et pour la négliger elle est trop favorable. Ce serait mérité qu'il me la vint ravir, que de l'avoir en main et ne m'en pas servir.
Damis.
Non. S'il vous plaît, il faut qu'on me croie. Mon âme est maintenant au comble de sa joie, et vos discours en vain prétendent m'obliger à quitter le plaisir de me pouvoir venger. Sans aller plus avant, je vais vider d'affaires, et voici justement de quoi me satisfaire.
Scène 5. Orgon, Elmire, Damis, Tartuffe.
Nous allons régaler, mon père, votre abord d'un incident tout frais qui vous surprendra fort. Vous êtes bien payé de toutes vos caresses, et monsieur d'un beau prix reconnaît vos tendresses. Son grand zèle pour vous vient de se déclarer. Il ne va pas à moins qu'à vous déshonorer. Et je l'ai surpris là qui faisait à madame l'injurieux aveu d'une coupable flamme. Elle est d'une humeur douce, et son cœur trop discret voulait à toute force en garder le secret. Mais je ne puis flatter une telle impudence, et croire que vous la taire et vous faire une offense.
Oui, je tiens que jamais de tous ces vains propos on ne doit d'un mari traverser le repos, que ce n'est point de là que l'honneur peut dépendre et qu'il suffit pour nous de savoir nous défendre. Ce sont mes sentiments et vous n'auriez rien dit, Damis, si j'avais eu sur vous quelque crédit.
Scène 6. Orgon, Damis, Tartuffe.
Ce que je viens d'entendre au ciel est-il croyable ?
Oui, mon frère, oh, je suis un méchant, un coupable, un malheureux pécheur, tout plein d'iniquité, le plus grand scélérat qui jamais ait été. Chaque instant de ma vie est chargé de souillures, elle n'est qu'un amas de crimes et d'ordures. Et je vois que le ciel, pour ma punition, me veut mortifier en cette occasion. De quelque grand forfait qu'on me puisse reprendre, je les garde d'avoir l'orgueil de m'en défendre. Croyez ce qu'on vous dit, armez votre courroux, et comme un criminel, chassez-moi de chez vous. Je serais avoir tant de honte en partage que j'en ai encore mérité l'avantage.
Orgon à son fils.
Ah, traître, oses-tu bien par cette fausseté vouloir de sa vertu ternir la pureté ?
Quoi ? La feinte douceur de cette âme hypocrite vous fera démentir.
Tais-toi, peste maudite !
Non, laissez-le parler, vous l'accusez à tort. Vous feriez bien mieux de croire à son rapport. Pourquoi, sur un tel fait, m'être si favorable ? Savez-vous, après tout, de quoi je suis capable ? Vous fiez-vous, mon frère, à mon extérieur ? Et pour tout ce qu'on voit, me croyez-vous meilleur ? Non, non, vous vous laissez tromper à l'apparence, et je ne suis rien moins, hélas, que ce qu'on pense. Tout le monde me prend pour un homme de bien, mais la vérité est que je ne vaux rien.
S'adressant à Damis.
Oui, mon cher fils, parlez. Traitez-moi de perfide, d'infâme, de perdu, de voleur, d'homicide. Accablez-moi de noms encore plus détestés, je n'y contredis point, je les ai mérités. J'en veux à genoux souffrir l'ignominie, comme une honte due au crime de ma vie.
Orgon à Tartuffe.
Mon frère, c'en est trop.
À son fils.
Ton cœur ne se rend point, traître.
Quoi ? Ces discours vous séduiront au point.
Orgon relevant Tartuffe.
Tais-toi, Pandare. Mon frère, levez-vous de grâce.
À son fils.
Infâme.
Il peut.
Tais-toi.
J'enrage. Quoi, je passe.
Si tu dis un seul mot, je te romprai les bras.
Mon frère, au nom de Dieu, ne vous emportez pas. J'aimerais bien souffrir la peine la plus dure qu'il eût reçue pour moi la moindre égratignure.
Orgon à son fils.
Ingrat.
Laisse-le en paix. S'il faut à deux genoux vous demander sa grâce.
Orgon, se jetant aussi à genoux et embrassant Tartuffe.
Hélas, vous moquez-vous ?
À son fils.
Coquin, vois sa bonté.
Donc ?
Paix.
Quoi ? Je...
Paix, dis-je. Je sais bien quel motif à l'attaquer t'oblige. Vous le haïssez tous, et je vois qu'aujourd'hui, femmes, enfants et valets déchaînés contre lui, on met impudemment toutes choses en usage pour ôter de chez moi ce dévot personnage. Mais plus on fait d'efforts afin de l'en bannir, plus je veux employer à l'y mieux retenir, et je vais me hâter de lui donner ma fille pour confondre l'orgueil de toute ma famille.
À recevoir sa main, on pense l'obliger ?
Oui, traître, et dès ce soir, pour vous faire enrager, hein, je vous brave tous, et vous ferai connaître qu'il faut qu'on m'obéisse et que je suis le maître. Allons, qu'on se rétracte, et qu'à l'instant, fripon, on se jette à ses pieds pour demander pardon.
Qui, moi, de ce coquin, qui par ses impostures...
Ah, tu résistes, gueux, et lui dis des injures.
À Tartuffe.
Un bâton, ne me retenez pas.
À son fils.
Sus, que de ma maison on sorte de ce pas, et que d'y revenir on n'ait jamais l'audace.
Oui, je sortirai, mais...
Vite, quittons la place, je te prive, Pandare, de ma succession, et te donne de plus ma malédiction.
Scène 7. Orgon, Tartuffe.
Offenser de la sorte une sainte personne.
Ô ciel, pardonnez-lui comme je lui pardonne.
À Orgon.
Si vous pouviez savoir avec quel déplaisir je vois qu'envers mon frère on tâche à me noircir.
Hélas!
La seule pensée de cette ingratitude fait souffrir à mon âme un supplice si rude. L'horreur que j'en conçois! Oh, j'ai le cœur si serré que je ne puis parler et crois que j'en mourrai.
Orgon, courant tout en larmes à la porte par où il a chassé son fils.
Coquin, je me repens que ma main t'ait fait grâce et ne t'ait pas d'abord assommé sur la place.
À Tartuffe.
Ah, remettez-vous, mon frère, et ne vous fâchez pas.
Rompons le cours de ces fâcheux débats. Je regarde Séan quel grand trouble j'apporte, et je crois qu'il est besoin, mon frère, que j'en sorte.
Comment ? Vous moquez-vous ?
Mais on m'y est, et je vois qu'on cherche à vous donner des soupçons de ma foi.
Qu'importe, voyez-vous que mon cœur les écoute ?
On ne manquera pas de poursuivre, sans doute. Et ces mêmes rapports qu'ici vous rejetez, peut-être une autre fois, seront-ils écoutés ?
Non, mon frère, jamais.
Oh, mon frère, une femme, aisément d'un mari, peut bien surprendre l'âme.
Non, non.
Laissez-moi vite, en m'éloignant d'ici, leur ôter tout sujet de m'attaquer ainsi.
Non, vous demeurerez, il y va de ma vie.
Eh bien, il faudra donc que je me mortifie. Pourtant, si vous vouliez...
Ah ?
Soit, n'en parlons plus. Mais je sais comme il faut en user là-dessus. L'honneur est délicat, et l'amitié m'engage à prévenir les bruits et les sujets d'ombrage. Je fuirai votre épouse, et vous ne me verrez.
Non, en dépit de tous, vous la fréquenterez. Faire enrager le monde est ma plus grande joie, et je veux qu'à toute heure avec elle on vous voie. Ce n'est pas tout encore. Pour mieux les braver tous, je ne veux point avoir d'autre héritier que vous, et je vais de ce pas, en fort bonne manière, vous faire de mon bien donation entière, un bon et franc ami que pour gendre je prends, mais bien plus cher que fils, que femme et que parent. N'accepterez-vous pas ce que je vous propose ?
La volonté du ciel soit faite en toutes choses.
Le pauvre homme. Allons vite en dresser un écrit, et que puisse l'envie en crever de dépit.